18th The Punisher.
Chris, this is for me.
Et 11h33 minutes, salut à vous, oui à vous, et ceux qui se battront pour nous vont mourir, ou enfin ceux qui te saluent vont mourir pour toi César. Non, ça ne fonctionne pas comme ça ici, on se bat ensemble, et je ne ferai pas cavalier seul à vous regarder, bien au contraire, on a au bout du fil Anne-Marie Delcambre, notre professeur, oui justement, intergalactique, qui risque d'écraser quelques gueules aujourd'hui. Live@rockick.com. C'est toujours un plaisir de l'appeler. Elle va me dire un plaisir en retard. Par contre, elle pourrait me reprocher ça et me taper sur les doigts comme un élève indiscipliné. Je tiens quand même à m'excuser auprès d'elle, cette délicieuse dame qu'on écoute à l'instant. Bonjour, comment allez-vous?
Ça va bien et je vais parler des problèmes que peut poser l'immigration musulmane au Canada.
D'accord.
Donc, lorsque s'est produit chez vous l'attentat avorté, heureusement ça n'a pas réussi, de Toronto.
Exactement.
Le 17 juin 2006.
Voilà.
Vraiment, les Canadiens ont cru vivre un cauchemar, car cet attentat n'était pas le fait de musulmans non-canadiens. Non, non. La preuve, il y a eu 17 arrestations de citoyens canadiens, 12 adultes et 5 mineurs. En plus, c'était pas des petits pauvres, hein. Non, non, non. Ils provenaient de milieux défavorisés. Une partie de ces terroristes, entre guillemets, étaient nés au Canada, mais en tout cas, tous étaient établis au Canada. Ils étaient étudiants, informaticiens, donc des personnes instruites. Et parmi les terroristes, on trouve même un ancien membre des forces armées canadiennes récemment converti à l'islam. Et les cibles, c'était des cibles canadiennes, la Bourse de Toronto, la Tour de la Paix, le Parlement d'Ottawa, bref, des institutions canadiennes qui étaient visées. Et ce qui était réclamé, c'était le retrait des troupes canadiennes en Afghanistan. Ce qui était projeté, tenez-vous bien, mais vous le savez mieux que moi, c'était d'enlever des députés avec menace d'assassiner des otages en leur coupant la tête, en les décapitant. Et aussi, ce qui était projeté, c'était l'assassinat du premier ministre Stephen Harper, et même, enfin, ça, le pauvre, il a tellement été sans doute traumatisé qu'il a dit, et je le comprends, les terroristes musulmans en veulent à notre mode de vie et à nos valeurs libérales de paix, de démocratie et de respect des droits humains. C'est pas ça, tout à fait, le problème. Mais c'est vrai que les Canadiens, ils ont été désarçonnés par ce terrorisme qui provient de citoyens canadiens de confession musulmane. C'est vrai que le Canada, il faut l'avouer, hein, a depuis longtemps servi de tremplin à certains terroristes musulmans contre le voisin américain.
Deuxième génération, hein, Madame Delcambre. Oui, en plus, il faut ce détail-là est tellement important, c'est très important.
Exact.
Deuxième.
J'ai pas pu avoir les noms parce que malheureusement certains noms de mineurs n'étaient pas disponibles. J'ai cherché partout.
Voilà.
Alors pourquoi c'était, si vous voulez, que le Canada est tellement proche des États-Unis? Pourquoi? À cause de vos frontières qui sont très longues, des frontières poreuses, c'est pas toujours surveillé, elles sont très longues et on peut passer très facilement entre le Canada et l'Amérique. Donc, les États-Unis, c'est vrai, ont toujours eu peur et ont encore peur que le Canada ne devienne un repère de terroristes pakistanais, égyptiens, somaliens. Et c'est vrai que l'immigration musulmane canadienne est une immigration qui a été, je ne sais pas si elle est encore, laxiste aux yeux de certains. Ainsi, par exemple, vous avez le cas de Ahmed Rassam, R-A-2-S-A-M, arrêté en 1999, qui était un résident canadien, et que faisait le brave homme? Il planifiait un attentat contre Los Angeles. Il avait été intercepté à la frontière canado-américaine. Alors, c'est vrai qu'il faudrait être très sévère pour la traversée de la frontière entre le Canada et les États-Unis, et on pourrait citer le cas de Ahmed Rassam, que je viens de citer, le cas de Moumine Khawaja, le cas de, mais surtout le cas de la famille Khadr, ou Khadr, K-H-A-D-R, qui montre que certains Canadiens, de confession musulmane s'établissent au Canada, mais pas du tout pour vivre au Canada, okay. mais pour agir ailleurs, contre les USA,
oui.
ou en Afghanistan, ou en Irak. Et alors le cas de la famille Khadr, K-H-A-D-R, a d'ailleurs donné lieu à un article sur le terrorisme familial au Canada par l'Américain Daniel Pipes. Qui est ce fameux Saïd Al-Khadr, ou Al-Khadr si on peut, K-H, c'est un Kha, mais je n'ai pas vu écrit en arabe. Saïd Al-Khadr est un Égyptien. Il est venu tranquillo au Canada en 1975. Il a épousé une Palestinienne. Mais tenez-vous bien, il a fait des études d'ingénieur en informatique à l'université d'Ottawa et il a obtenu un emploi dans une grande entreprise de télécommunications. Lorsque l'Afghanistan a été envahi par l'armée soviétique, le fameux Khadr,
oui.
K-H-A-D-R, a travaillé pour une organisation caritative, charitable, fondée à Ottawa en 1980. Et puis, évidemment, dans le cadre de cette organisation pour aider le tiers-monde et patati patata, en 1985, alors qu'il travaillait en Afghanistan pour le Canada, voilà que Khadr rencontre Ben Laden. Et il devient un agent canadien de Ben Laden. Mais il n'est pas le seul. Il y en a 75. Il est un des 75 agents canadiens d'Al-Qaïda. Et avec une grande et surprenante naïveté, votre pays, le Canada, a subventionné l'organisation internationale.
Oui, voilà.
325 000 dollars canadiens. Autrement dit, entre 1988 et 1997, ce sont les fonds des contribuables canadiens qui ont contribué à subventionner Al-Qaïda indirectement. Et alors vos bureaucrates canadiens d'Ottawa, parfaitement naïfs et parfaitement tiers-mondistes, considéraient Khadr comme un citoyen canadien irréprochable. Et même après son arrestation par les autorités pakistanaises, parce que le monsieur avait détourné des fonds de l'association caritative pour attaquer l'ambassade égyptienne au Pakistan,
oui.
qui avait fait 18 morts, eh bien, tenez-vous bien, le premier ministre canadien, Jean Chrétien.
Attention là.
Pardon.
Non, vous avez le droit,
A profité d'une visite officielle au Pakistan pour prendre la défense de Khadr, K-H-A-D-R, de cadre comme vous voulez, auprès du premier ministre pakistanais. Alors, devant cette intervention surprenante du premier ministre canadien, chrétien, ça a fait que Khadr a été libéré et il est revenu au Canada. En 1996, il a fondé avec son épouse, la palestinienne, une association charitable islamique. Et quand les talibans ont pris le contrôle de l'Afghanistan, la famille Khadr et les 6 enfants, ils sont tous allés sur place. Alors la famille, elle est charmante. La Daniel Pipes, il ne manque pas d'humour. C'est une famille terroriste. Vous avez toute la famille, non sauf un. Vous avez l'épouse, Mara, qui, elle, en 2001, a emmené son fils Omar du Canada au Pakistan pour lui faire suivre l'entraînement d'Al-Qaïda. La fille, Zainab, 23 ans, elle s'est mariée à un terroriste d'Al-Qaïda et Ben Laden a même assisté au mariage. Il y a Omar, 17 ans, qui lui a lancé une grenade qui a tué un médecin américain en Afghanistan. Mais alors le môme, il a quand même perdu un œil et il a été détenu, je ne sais pas s'il est encore, à Guantanamo. Le fils Abdul Karim, 14 ans, il est à moitié paralysé et dans un hôpital parce que, à la suite des blessures reçues lors de la fusillade d'octobre 2003, ou qui a coûté la vie à son père, eh bien, il a reçu des éclats. Il est dans un hôpital à moitié paralysé. Il y a un seul dans cette famille maudite, Abdul Rahman, 21 ans, qui a accepté de travailler pour la CIA et qui est retourné au Canada en octobre 2003 en disant « Je veux être un musulman bon, fort, civilisé, pacifique. »
On a un auditeur qui nous envoie un commentaire, Mme Delcambre, tel que Zacharias Moussaoui, qui lui aussi a fait partie justement de ces individus.
Tout à fait. Ne vous inquiétez pas, la France va y passer. Donc, ce genre de famille donne froid dans le dos, comme d'ailleurs la famille Ben Chelali en France, dont le fils Mourad était à Guantanamo, tandis que le père et les deux autres fils étaient incarcérés en France. Franchement, alors ces Canadiens, comme la famille Crade, ne sont pas des Canadiens de cœur. Ils s'en foutent du Canada. Ils détestent l'Occident. Et leurs enfants, ils les utilisent, comme font d'ailleurs les parents palestiniens, ils les utilisent comme armes pour la cause, pour la grande cause, pour le service d'Allah. Mais alors, là le choc de l'attentat avorté, heureusement manqué à Toronto,
voilà.
C'est que des gens qui sont nés au Canada, comme vous disiez très bien, faisiez remarquer, ce n'est pas des gens qui viennent du pays, il y a des gens qui sont nés au Canada, établis au Canada, instruits, nourris au Canada, et qui commettent des attentats sur le sol canadien. Est-ce qu'il n'y a pas là, c'est la question que je pose, un échec de l'intégration de ces jeunes de l'immigration musulmane? Comment expliquer cela? C'est vrai que les Canadiens n'y comprennent rien, parce que c'est vrai qu'on a fait des études. Ces terroristes canadiens, alors il y en a qui ont dit « Ouais, mais ils ne participaient pas à la vie du quartier, ils n'étaient pas ou pas très connus de leurs voisins, il y avait un certain repli social. » Ce qui est certain, c'est qu'il faut dire que s'ils sont vraiment, vraiment remontés ou, comment dirais-je, par des musulmans radicaux, par des salafistes, par des pieux musulmans, ils ne sont pas heureux de vivre dans une société de mécréants. Ils se sentent solidaires des souffrances des musulmans en Irak, des musulmans en Afghanistan, des musulmans palestiniens, et ils se sentent beaucoup moins solidaires des Canadiens. Les Canadiens, ce sont des Occidentaux, ils n'ont qu'à crever. C'est le même cas dans les autres pays d'Occident. L'islamiste terroriste né en Belgique, celui né en Angleterre ou en Espagne, il n'a jamais considéré que le pays d'Occident était son vrai pays.
Mais attendez, là, quelque chose, une bonne réplique via le live @.com, mais c'est grave là, ce que l'on dit aujourd'hui. C'est à cause de l'injustice faite aux Palestiniens.
Non, parce que, si vous voulez, sa vraie patrie, pour tous ces gens qui ont dans leur tête les textes sacrés là, du Coran et, de,
oui.
et des hadiths, sa vraie patrie, c'est l'islam. C'est-à-dire que c'est une patrie qui est tirée de la lecture des textes sacrés, d'après laquelle le musulman est le frère du musulman. Al-muslim, ahul muslim. Alors c'est vrai, la façade, elle est impeccable. Ils ont la nationalité du pays, canadienne en ce qui nous concerne, hein, le passeport.
Oui.
Ils ont des métiers honorables, vraiment, sincèrement. Ils ont fait des études, souvent d'ailleurs dans des choses qui peuvent leur servir, l'informatique, la chimie, les sciences, surtout les sciences. Ils ne se font pas non plus connaître tellement des services de police pour ne pas avoir de pépins, mais c'est une enveloppe vide. Leur cœur est ailleurs. Ils ne sont pas Canadiens de cœur. Dans le fond d'eux-mêmes, il y a le rejet radical de la société d'accueil. Il y a le refus de s'intégrer. Si vous voulez, ces islamistes terroristes, même s'ils sont nés au Canada, ils ont des liens sentimentaux, affectifs, imaginaires très forts avec leur pays d'origine ou avec d'autres pays musulmans comme l'Irak ou l'Afghanistan qu'ils ne connaissent même pas géographiquement. Mais leur cœur est avec des musulmans. Et c'est d'autant plus incompréhensible. C'est pour ça que moi, le cas du Canada, ça m'interpelle. C'est qu'ils ne manquent pas d'argent. Leur situation familiale n'est souvent pas mauvaise. Mais ils se sentent coupables d'être dans un pays de mécréants, d'infidèles. Ils ne veulent pas, je dirais même à la limite, ils ne peuvent pas se déclarer entièrement canadiens. Et ils sont tiraillés, c'est pareil d'ailleurs en Belgique et c'est pareil dans d'autres pays, ils sont tiraillés entre deux pôles.
Exactement, et dans le reportage que je vous avais parlé, Second Regard à Radio-Canada, ils disent clairement qu'ils ont comme, ils n'ont comme pas le choix là, d'adopter d'une certaine façon la culture canadienne. Mais par contre, ils ne veulent pas perdre la leur qui est si importante.
C'est ça, parce que je veux vous dire, ils sont vraiment déchirés entre deux pôles. Il y a d'une part les discours musulmans traditionnels, et ça, on le fait en étudiant les hadiths et le Coran, c'est-à-dire qu'ils prônent le retour à l'islam pur et intégral, et de l'autre côté, l'attraction du libéralisme canadien, la liberté dans tous les domaines, etc. Et ces musulmans, en même temps, on ancre en eux, ces religieux, ils disent un sentiment d'humiliation du monde musulman, un désir de revanche, et en plus, le modèle démocratique occidental n'est absolument pas valorisé, ni admirée, ni recommandée par les musulmans radicaux. Et les libertés sont vues comme quoi ? Comme l'appel à la corruption, et surtout l'Occident est perçu comme judéo-chrétien ou même athée. Alors le Canada, c'est vrai, qui sait que la menace terroriste existe sur son sol, et c'est vrai qu'elle existe, comme elle existe en Belgique ou ailleurs, qui sait que ce terrorisme religieux se réfère, il faut le dire, à tort ou à raison, mais au Coran, à l'exemple du prophète, même si c'est pas bien de se référer au Coran, c'est là-dedans qu'ils prennent leur modèle. Le Canada, effectivement, n'a pas, la plupart des Canadiens, n'a pas une bonne, sauf les gauchistes, n'a pas une bonne image des musulmans. Il y a une montée de méfiance et même de haine vis-à-vis de l'islam. Les Canadiens ne savent plus comment agir et réagir. Ils commencent même à douter des idéaux fondateurs de la citoyenneté au Canada. Et c'est vrai que le modèle québécois, il est de plus en plus critiqué, presque plus que le modèle multiculturel du Canada anglais. Pourquoi ? Parce que le modèle multiculturel du Canada anglais, les Anglais, ils laissent un peu faire, bon, c'est un modèle communautaire, on sait. Le modèle québécois, il est quand même d'inspiration française, c'est-à-dire plutôt républicain et laïque. Et c'est vrai qu'il y a certains musulmans qui préfèrent le modèle du Canada anglais, qui leur laissent plus de paix pour faire leur petit fricot. Le Canada français, lui, ne supporte pas le refus d'intégration. Il est un peu comme la France. Il a l'impression qu'il offre aux musulmans la possibilité de connaître la liberté, l'égalité, et que ceux-ci préfèrent rester dans leur obscurantisme religieux. Or, pour comprendre le malaise du Canada français, il faut se rappeler que la première mention de l'existence de musulmans au Canada remonte aux années, disons, 1870. On les appelait alors Turcos, T-U-R-C-O-S. C'était des gens qui étaient originaires des pays dominés par la Turquie. Mais jusqu'au milieu du XXe siècle, le Canada a fait attention de faire plus entrer des personnes de religion chrétienne. C'est pour ça qu'en 1921, il y avait seulement 478 musulmans. Mais quand le Canada a aboli les lois qui sélectionnaient les immigrants selon la religion et l'ethnie, le nombre des musulmans a commencé à augmenter. Je vous donne des chiffres. De début des années 1970, 40 000.
On nous dit aussi via le live, Mme Delcambre, qu'il y a plusieurs façons aussi là, de venant de leur côté, de pouvoir s'insurger ou enfin d'embarquer dans plusieurs domaines pour faire passer leurs idées. Et ça,
attendez, là, regardez le nombre, comment il a flambé. Début des années 70, 40 000. 1981, 100 000. 1991, 250 000. Et actuellement, on en est à 600 000. Et l'immigration s'est faite par vagues. Vous avez eu d'abord la vague d'Europe de l'Est, ensuite vous avez une vague indo-pakistanaise, la vague égyptienne, la vague libanaise, et maintenant c'est la vague algérienne. Quant au Québec, c'est dans les années 1960 que leur nombre va augmenter. À partir des années 70, l'immigration musulmane au Québec est montée en flèche. 45 000 en 1991, 100 000 en 1995, plus de 200 000 maintenant. Or, le problème pour les musulmans canadiens, c'est que beaucoup d'entre eux ne veulent pas adhérer vraiment à une mentalité judéo-chrétienne. Ils ont du mal à se dire pleinement canadiens. Ils ne vivent pas pleinement le Québec, ils vivent au Québec, mais détachés, en disant toujours, en pensant à leur, même ceux qui sont nés au Canada, eh bien, ils se sentent toujours d'ailleurs, reliés à ailleurs. La laïcité, d'ailleurs, est pour certains synonyme d'athéisme. Et vous savez que l'athéisme, c'est synonyme d'apostasie. Et c'est là la grosse clé. L'apostasie, c'est pas seulement celui qui va aller choisir une autre religion. Non, 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 non. L'apostasie, en arabe, ridda, R-I-D-D-A, c'est de quitter l'islam ou de se comporter comme un mécréant. Autrement dit, celui qui adopterait les usages canadiens, qui mangerait du porc, qui, vous voyez ce que je veux dire, qui boirait du vin, qui prendrait de l'alcool. L'apostasie, alors ce qui est grave, extrêmement grave, c'est que l'apostasie, ce n'est pas seulement l'enfer après la mort, on s'en ficherait. Non, dans ce monde, le musulman risque la peine de mort donnée théoriquement par ses frères en religion, quel que soit le pays. Parce que le prophète a été très clair, celui qui abjure sa religion, c'est-à-dire qu'on n'a pratique plus ou agit autrement, tuez-le. Et dans le hadith de Nawawi, que vous avez lu l'autre fois et que vous relirez encore maintenant, numéro 14, qui est lu et connu par tous les musulmans, et c'est vraiment, c'est un peu comme, je sais pas moi, l'almanach vermont, enfin c'est vraiment connu. Le musulman peut tuer un autre musulman, et c'est même un devoir pour lui de le faire, où qu'il soit, dans trois cas précis. L'adultère, le musulman adultère, le meurtre non légitime d'un musulman, quand un musulman a tué un autre musulman, mais de façon qui n'est pas sans droit, et le fait pour un musulman de laisser sa religion, de quitter sa communauté. Et c'est grave, parce que dans toutes les librairies, vous imaginez, le musulman, il sait ça par cœur. Alors pourquoi mettre à mort l'apostat ? Parce qu'il a osé renoncer ou se moquer de la meilleure des religions qui existent pour les musulmans, c'est-à-dire l'islam. Alors s'il fait ça, ça ne peut être que le fait d'un fou ou d'un être profondément corrompu. Moi j'ai souvent entendu cette remarque. Comment vous enseignez l'islam et vous n'êtes pas musulmane ? Mais vous devez... Comme si j'étais une malade, une demeurée, quelqu'un qui ne sait pas. C'est un peu comme si vous, on vous donne du bon champagne et que vous dites, oh ben non, je préfère de l'eau ou je préfère du coca. Vous voyez, c'est-à-dire on considère que c'est pas normal de ne pas s'incliner, de ne pas adhérer à la meilleure des religions qu'il ait pu paraître sur la terre.
Exactement.
Et son existence à cet apostat n'a aucun sens sinon de donner le mauvais exemple et d'inciter d'autres musulmans à le suivre. Il représente, cet apostat, une menace réelle pour le système. Et c'est alors que l'apostat ne peut plus rester marié.
Ouais.
L'apostat ne peut plus être estimé. L'apostat ne mérite pas d'être protégé. Et vous savez que dans les pays musulmans, comme l'Égypte, certains, il y a une femme qui s'appelle Nawal Sardawi, une gynécologue, une médecin, qui a écrit des choses assez vraies sur, effectivement, l'excision, sur le manque de liberté, etc. en islam. Eh bien, il y a quelqu'un qui a demandé l'annulation de son mariage. Et il pouvait le faire parce qu'il y a un système juridique dans le droit musulman, la HISBA, H-I-S-B-A, qui permet à n'importe qui, c'est un peu le rôle du ministère public, de, si quelqu'un, on voit que quelqu'un manifestement est contre l'islam, un musulman qui est manifestement se comporte comme un athée, eh bien il peut demander, en quelque sorte, l'annulation de son mariage. Parce qu'il y a l'obligation pour chaque musulman d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Mais la loi égyptienne, avec Moubarak, n'a pas suivi pour une fois les islamistes. Seul le procureur peut porter plainte, mais en revanche, il y en a un chercheur, Nasr, Abu Zaid, Z-E-I-D, un universitaire égyptien, qui a écrit des propos qui ne convenaient pas aux musulmans. Il a vu son mariage annulé, il s'est, je crois, réfugié au Danemark, et ses écrits ont été jugés comme hérétiques. Et certains islamistes ont demandé qu'un prix Nobel de littérature, Nagui Mahfouz, eh bien, soit divorcé directement de son épouse. Car la HISBA, c'est une institution comme, bon, qui existe en droit musulman, autorise les musulmans, n'importe lequel, à porter plainte au nom de la société, de la communauté, quand ils jugent que les valeurs de l'islam sont menacées. Or, l'islam interdit aux musulmans d'être mariés à des personnes athées ou hérétiques. Alors, je pense, moi, qu'au Canada, comme en Belgique, comme en Angleterre, il y a la peur pour les musulmans d'être considérés comme un apostat. Et c'est cela qui empêche chaque membre.
Mais le problème, je vous en dis un tout de suite, quand il y a des attentats, il n'y en a pas un qui sort, il n'y a personne qui sort pour dire non, on est totalement d'accord contre cette attitude.
Ou sinon,
c'est un oui, mais.
Mais bien sûr! C'est ce que je viens de dire, parce qu'ils ne veulent pas, vis-à-vis des autres, vis-à-vis du reste de la communauté, paraître donner raison, voyez, paraître sortir de l'islam. Ils ont tous une frousse, une peur terrible, celle d'être montrés du doigt comme apostat. Si vous voulez, imaginer, par exemple, un curé tout puissant qui décide de flinguer celui qui n'ira pas, vous voyez, qui ne suivra pas, qui n'ira pas à la messe le dimanche. Mais tout le monde va avoir peur. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Tout le monde va avoir peur.
Oui.
Donc, à la limite, c'est ça, le regard inquisiteur, vous voyez, ça les empêche de profiter pleinement des avantages du pays d'accueil, en l'occurrence le Canada. Imaginez, par exemple, quelqu'un qui va boire du vin, de la bière ou se saouler passe un autre membre de sa communauté, il va, ou alors une fille qui, par exemple, a un petit ami, vous voyez, etc., il va être stigmatisé. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le problème. Le regard inquisiteur de la communauté surveille chaque membre. Alors, le seul moyen, moi je vous dis franchement, c'est d'empêcher que la communauté ne se ressoude. Vous voyez, casser ce repli communautaire. Alors, en France, c'est possible, parce que chaque citoyen vaut un autre citoyen. Mais dans votre pays, le Canada, vous agissez dans un système communautaire, une communauté, une minorité visible. Ça veut dire, c'est là le vrai danger. C'est-à-dire qu'il se regroupe, et plus la communauté va se regrouper, plus elle va être forte, moins il y aura de liberté pour les individus. C'est pour ça que notre fameux bonhomme, la Sayed Mumtaz Ali, il a dit, voilà, nous avons notre communauté, pourquoi pas commencer par demander des tribunaux pour les arbitrages dans les affaires, gna gna gna, et puis on continue. Vous voyez, et on fera une sorte de mafia. Si quelqu'un se déclare un peu trop, athée ou un peu mécréant, eh bien, quand il va voir un membre de sa famille, ou il sera frappé, comme ce qui est arrivé aux Pakistanais, ou un membre de sa famille qui va avoir des problèmes, ou quand il va recevoir, comme Théo Van Gogh, un coup de couteau, alors on dira toujours, mais c'est un fou qui a fait ça, c'est un fou. N'empêche qu'il aura passé de vie à trépas. Et c'est ça le danger. C'est pas le fait, bon, voleur à la voleuse, couper-leur la main, c'est pour le musulman dans un système musulman, comme l'Arabie, comme le Soudan. Exact. Mais là, pour les musulmans qui sont dans un pays occidentaux, la communauté, ils se regroupent entre eux et personne n'ose désavouer parce que personne ne veut être considéré comme apostat. C'est ça le grand danger. Dans le petit livre que vous pouvez avoir dans les 40 hadiths, le hadith numéro 14, il y a trois cas où l'on peut, où un musulman peut tuer un autre musulman, il aura la place au paradis. C'est quand il voit un musulman qui trompe sa foi, c'est un adultère, et quand il voit un musulman qui abandonne sa religion.
Autre détail, Madame Delcambre, que je trouve toujours fantastique, dans juste pour revenir encore un tout petit peu, ouvrir une parenthèse sur le reportage Second Regard, on dit encore et encore et encore que le Coran est de paix et d'amour.
Il y a, alors, on va régler ça une fois pour toutes. Quand vous ouvrez le Coran, il y a effectivement toutes les sourates de la Mecque où on peut dire, bon, c'est effectivement pas différent du judaïsme. Vous voyez, il y a des choses qui sont tout à fait correctes. Et puis, vous tombez, par exemple, sur ce qu'on va étudier, là, la sourate 24, la lumière, verset 2. Le fornicateur et la fornicatrice, frappez-les, flagellez-les de 100 coups de fouet chacun. C'est pareil pour les petits hadiths. Vous avez ce qu'on a vu là, le hadith numéro 14 qui dit qu'on peut tuer dans trois cas un musulman. Mais vous avez le hadith numéro 16 où il sait très très bien, puisque le prophète est interrogé. Voilà, il est dit, un homme demanda un jour au prophète, que Dieu lui accorde grâce et salut, de lui faire une recommandation. Le prophète dit, la tardab, ne t'emporte pas, ne te mets pas en colère. L'homme réitéra plusieurs fois sa demande, et le prophète, invariablement, lui fit la même réponse, la tardab, ne t'emporte pas, ne te mets pas en colère. Ça, c'est impeccable. C'est impeccable. De même, vous avez un autre hadith où on dira, ne fais pas pour autrui ce que tu voudrais pas qu'on te fasse à toi-même. Mais ce que vous oubliez, c'est qu'entre les deux, il y a le hadith numéro 14, où vous avez la possibilité, pour un musulman, qui voit un autre musulman s'engager dans l'erreur, de le tuer, carrément de le tuer. Alors, comme il y a à la fois l'ombre et la lumière,
oui, c'est ça, parce que
les musulmans ne disent aux non-musulmans, mais regardez comme c'est bien.
Le sang, juste pour lire rapidement le passage, le sang du musulman, ça c'est le hadith 14, le sang du musulman ne peut être légalement versé que s'il...
Légalement, c'est-à-dire, vous voyez ce que je veux dire, ça veut dire que c'est tout à fait possible, légalement, autorisé, oui.
Légalement, exactement. Et versé, s'il relève de l'un de ces trois cas, l'homme marié qui... comme l'adultère, le meurtrier qui devra subir le sort de sa victime, c'est ça? Et enfin, celui qui renie sa foi et qui se sépare de sa communauté. Attendez, expliquez-moi pourquoi que quelqu'un qui renie sa foi, ça veut dire quoi ça, Mme Delcambre? Qu'est-ce que ça veut dire exactement ici?
Ça veut dire celui qui ne veut plus, qui ne s'occupe plus de l'islam et qui décide de vivre tout seul en se séparant de la communauté. Eh bien, à ce moment-là, il a le droit d'être tué. Le sang de ce musulman peut être versé par un autre musulman. Le sang du musulman ne peut pas être versé sauf dans ces trois cas. Vous imaginez, c'est en librairie, c'est-à-dire que le musulman est le frère du musulman. Al-Muslim, Akhul Muslim. D'ailleurs, il y a sur le forum quelqu'un très intelligent qui a dit les juifs sont très durs pour eux-mêmes. Vous voyez, c'est-à-dire il y a beaucoup Israël et en quelque sorte stigmatisé. Oui, ô fils d'Israël, vous ne suivez pas, gna gna gna. Mais c'est contre eux-mêmes qu'ils sont très durs. Pour le musulman, non. Ils sont très gentils les uns avec les autres. Le musulman est le frère du musulman, sauf dans trois cas. Si l'un désire sortir de l'islam, et ne plus se comporter en musulman, alors là, les autres musulmans peuvent verser son sang. Vous savez ce que ça veut dire? Mais c'est énorme. C'est plus énorme même que la loi du talion, parce que la loi du talion, ça supposerait qu'on est dans un système musulman. Mais là, n'importe quel, c'est ce qui s'est passé. Par exemple, pour, il y en a un qui s'appelle, un égyptien Fauda, il y a un chef religieux qui l'a déclaré apostat. Eh bien, il a été tué. Quelqu'un lui a planté un coup de couteau.
Oh, il y a quelqu'un d'autre qui nous donne un commentaire fort intéressant, Madame Delcarme. C'est votre ami, votre grand ami super résistant. Il dit ceci, je le répète et je le dis, l'islam est très comparable à la mafia, d'accord? Et pas de frontières et impossible d'en sortir.
C'est exact. Autant bravo super résistant. Merci. C'est-à-dire autant il est facile d'y entrer, très facile. Plus facile, on ne peut pas. Vous voyez, j'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que le prophète Mohammed est l'envoyé d'Allah, ça suffit, vous entrez. Mais de sortir, vous ne pouvez pas sortir. D'ailleurs, c'est comme ça. Ça, c'est historiquement, vous savez, à la mort du prophète, personne ne voulait plus payer la zakat, l'aumône. Alors, Abou Bakr, celui qui avait été choisi pour être premier calife, l'équivalent de notre Sarkozy actuel, il a décidé d'agir très fort. Il a dit, bon, très bien. Eh bien, celui qui ne paiera pas sera considéré comme apostat, donc nous pouvons le tuer. Il a enlevé une armée, et je puis vous assurer qu'il a tapé. C'est-à-dire qu'ils ont parfaitement réalisé, et ils sont, de ce point de vue-là, c'est du véritable génie, que pour être fort, il fallait absolument empêcher les gens de sortir quand ils avaient adhéré au système. Tu entres, tu peux plus sortir. C'est fameux, ça. Et pour qu'il n'y ait plus de sortie possible, comme le dit très bien Super Résistant, on fait un exemple, exactement comme dans le système de la mafia. Tu sors, tu es tué. Et quand on a vu qu'une personne ou deux personnes est tuée, ben je puis vous assurer que si vous étudiez le système des mafiosi de la mafia, ben le quatrième, quand il voit que sa famille est massacrée ou que lui-même va être tué, il ne rigole pas, il ne le fait pas. Et ça, on ne veut pas le dire. Mais c'est dans les 40 hadiths, vous pouvez les acheter dans toutes les librairies pour 2,50€ ou 3€ ou 2€. C'est à la portée de tout le monde. Et ce hadith 14, c'est pas comme le carbone 14, eh bien, vous le dit. C'est-à-dire que dans la tête de tous les musulmans, c'est quelque chose d'ancré.
Exact.
L'apostat mérite la mort. Alors, c'est vrai qu'il faut-il encore pouvoir la donner. Mais on trouvera bien toujours un fou. Comme dans la mafia, il y a toujours bien quelqu'un. Il y a un contrat, très bon exemple donné par Super Résistant. Il y a un contrat qui est lancé sur quelqu'un quand il sort de l'islam.
Madame Delcambre,
il n'est plus à l'abri nulle part.
Madame Delcambre, je dois à l'instant vous quitter l'auditoire pour, c'est-à-dire, revenir demain en grande forme. Mais est-ce qu'on pourrait reprendre certains passages la semaine prochaine?
La semaine prochaine, pour l'arabe, on reviendra sur ce hadith 14. Pourquoi? Parce que ce hadith numéro 14, ainsi d'ailleurs que certains passages du Coran sur l'adultère, ça montre que c'est pas des choses qui sont abrogées. Donc c'est toujours applicable et parfois appliqué. D'accord?
J'aimerais aussi qu'on revienne sur Messaoud Bourras. Est-ce que vous auriez un problème contre ça ou...
Non, qu'est-ce qui s'est passé pour lui?
Ben, c'est ça, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe avec lui.
Ben, je ne sais pas, parce que j'ai peur, j'espère qu'il ne m'est rien arrivé, on n'entend plus du tout parler.
C'est assez étrange, hein?
Oui, moi aussi, j'ai pensé à ça, mais je ne veux pas lui porter malheur. Mais c'est vrai que des gens qui sèment en plus la corruption, parce qu'il y a cette histoire de corruption sur la terre, c'est-à-dire semant, surtout pour les musulmans. Là, je dois dire sincèrement, cher monsieur Ismaël Trépanier,
oui,
c'est plutôt les musulmans que l'on défend. Parce que ça s'applique à des musulmans. Nous ne sommes pas musulmans, donc nous avons notre libre arbitre et notre liberté. Mais pour les musulmans qui sont nés musulmans, le fait de ne pas pouvoir sortir d'un système, moi je dis quand même, le musulman, le juif, le bouddhiste, ce sont tous mes frères sur cette terre, non?
C'est vrai.
Ben oui. Donc c'est pas normal que pèse sur lui ce carcan. Qu'il veuille pratiquer, d'accord, on est d'accord, mais qu'il veuille en sortir, ça devrait être aussi possible. Non. Non, c'est vrai, comme un humainement parlant.
Oui, oui.
C'est vrai, il faut que la radio requise soit pour ça. Parce qu'attention, les musulmans au Canada ne sont pas protégés contre ce hadith numéro 14 de Nawawi.
Oui, ça c'est vrai.
Bien.
Dans le fond, pour résumer un peu tout ça, je ne suis pas contre et je ne serai jamais contre les musulmans. Mais il y a une chose qui est claire, c'est qu'il y a des passages qui sont dangereux, il y a des gens qui utilisent ça contre eux-mêmes.
Et c'est ça qui est
dégueulasse, Madame Delcambre.
Et je veux dire pourquoi ce qui est grave, c'est qu'il y a certains musulmans, des musulmans sociologiques, qui ne savent même pas que ça existe. Vous voyez, ils ne connaissent pas l'arabe, certains ne connaissent pas, ne peuvent pas se référer au texte, on leur dit mais non. Et vous voyez, c'est pour ça que moi je suis pour que les gens portent à la connaissance des gens ces textes-là.
Ah.
Pour dire ça existe, et tant qu'ils ne sont pas abrogés, ils peuvent ressusciter du jour au lendemain.
Merci Madame Delcambre. À la semaine prochaine, je vous embrasse.
Sur vos
deux jours, merci.
Au revoir.
Au revoir Madame Delcambre.
Alors c'était Anne-Marie Delcambre que vous venez tout juste d'entendre, et les midi 8 minutes, pour nous c'est tout aujourd'hui. live@rocket.com pour nous joindre en studio. Il y a Christian qui s'en vient, Christian Dallaire, Hard Sport, une heure de sport bien intense, et pour vous dire aussi que justement la rediffusion sera disponible dès 16h22h. On bat des culs, ouais, ça va finir par le dire comme du monde. Wake up le show, vous dit bye, à demain, 8h, 14h, il y a un 6h de décalage, rentrez-vous ça entre les deux oreilles. Alors, du lundi au vendredi, ça s'appelle comme ça, Wake Up, Ismaël Trépanier, votre punisseur et maréchal. Bye, à demain tout le monde.
Hi, this is Ozzy Osbourne.
Hello, I'm Naomi from Black Sabbath.
I'm Joe Perry.
Steven Tyler from Aerosmith.
Hey, this is Red Rocker, Sammy Hagar.
Rocket.com.